France Inter.
France Inter. Le 18-20. Amélie Perrier.
Pour certains, c'est la promesse d'un beau voyage, de se couper de ses habitudes, de se réveiller le matin en pleine mer ou dans une ville différente tous les jours. Pour d'autres, c'est un cauchemar flottant. Des centaines, parfois des milliers de passagers dans un paquebot géant dont les cheminées recrachent des panaches noires de particules fines, du soufre et le bateau des hordes de touristes pressés de rapporter des souvenirs d'une Naples, Barcelone ou Rome qu'ils n'auront pas le temps de visiter. Les croisières n'ont jamais attiré autant de touristes, plus de 35 millions dans le monde l'an dernier. Mais l'on sait aujourd'hui à quel point cela abîme les mers et cela pollue l'air des villes portuaires. D'ailleurs, bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous.
Les écologistes sont loin d'être les seuls à monter au créneau.
Oui, c'est transpartisan. Les mers ont-ils des super pouvoirs face aux monstres des mers, MERS ? Ces hôtels flottants et polluants dont vous parliez, c'est très variable, on verra ça d'un port à l'autre.
On recevra dans un instant deux capitaines, deux pilotes de la marine marchande. L'un a fondé le collectif Stop Croisière, l'autre dirige Marseille-Provence Croisière.
Amélie Perrier, le 18-20.
Et bonsoir Guillaume Picard.
Oui, bonsoir. Mmh. Je salue les auditeurs de France Inter au nom de Stop Croisière, Marseille et Toulon.
Merci à vous d'être en direct avec nous ce soir. Vous avez fondé le collectif Stop Croisière, on va évidemment en parler. Mais il faut dire d'abord que vous avez passé avant 30 ans dans la marine marchande. Vous étiez capitaine de navire commercial, vous transportiez des touristes, des conteneurs en Méditerranée. Vous saviez dès le départ que ces paquebots polluaient beaucoup.
Oui, c'est une réalité dont on a été conscient. Et ma prise de conscience s'est exacerbée quand j'ai pris ma retraite en 2015 et que j'ai vu que beaucoup de riverains du port de Toulon s'étonnaient de voir toujours des navires stationnés en plein centre-ville et sur groupe électrogène et en fumant à qui mieux.
Mais vous les avez aimés, ces paquebots, pendant de nombreuses années, pendant des décennies en fait.
Oui, c'est un attachement à la mer et être officier de la marine marchande, pour moi, c'était une vocation d'être toujours en contact avec le milieu maritime.
Alors, comment est venue la prise de conscience ?
La prise de conscience, elle est venue du fait que mes dernières fonctions, c'était d'être commandant sur des cars ferries qui venaient accoster à Toulon, en plein centre-ville, très tôt le matin, en faisant du bruit, en fumant, parce qu'un navire en manœuvre, ça fume beaucoup. À l'appareillage le soir, ça pareil, ça fume beaucoup. Et toute la journée, il reste sur groupe électrogène et les habitations sont à moins de 50 mètres de nos cheminées, qui émettent des particules de toute taille, des oxydes de soufre, des oxydes d'azote et beaucoup de ces polluants qui sont extrêmement nocifs pour la santé.
Et donc vous avez fondé Stop Croisière. Qu'est-ce que c'est Stop Croisière ? C'est un collectif, c'est ça, de militants qui alertent justement sur ces dangers ?
Oui, tout à fait. Stop Croisière, c'est né de l'exaspération des riverains du port de Marseille essentiellement. Durant le Covid, à Marseille, ils ont accueilli une quinzaine de paquebots géants parce que c'est des navires qu'on ne peut pas garer n'importe où, dans n'importe quel port. Et donc, ils étaient stationnés à Marseille pendant toute la période de Covid et de confinement. Et ces navires étaient avec seulement leur équipage et ils étaient toujours sur leur groupe électrogène pour assurer leur production électrique.
Alors, vous le dites, Stop Croisière est né en Méditerranée, mais l'opposition aux bateaux de croisière gronde ailleurs en Europe. Vous avez essaimé, Guillaume Picard, sur la côte atlantique, notamment avec des collectifs plus modestes à Concarneau, à Lorient, à Douarnenez, à Cherbourg et au Havre, où tous les jeudis passe le MSC Preciosa pour son escale lors des croisières en mer du Nord. Tous les jeudis, enfin presque, nous raconte notre reporter cette semaine, Guy Vanctil.
On entend le vent, on devine les mouettes, mais alors pas de paquebot.
Ah non ?
Il n'est pas venu à cause d'un mouvement social de la CGT des ports.
Oui, on se réjouit quand même qu'il ne soit pas là.
C'est ça, vous êtes peut-être la seule ici, au Havre, qui est satisfaite de l'escale annulée de ce bateau qui s'appelait le
MSC Preciosa. 333 mètres de long, 4000 passagers, 1200 personnels d'équipage.
MSC Croisières vous ouvre les portes d'un lieu unique.
Réservez votre balcon sur la mer à un prix exceptionnel.
Il a le plus grand toboggan jamais construit sur un bateau. Et donc avec ses piscines chauffées, ses bars à remous, etc. Et toutes ces activités énergivores et polluantes.
Ah, j'aurais rêvé voir ça là, mais...
Nous on a dit la croisière abuse. Voilà, il y a de l'abus dans cette forme de tourisme.
Les paquebots de croisière ne font pas que des heureux au Havre. Un collectif vient de se créer pour dénoncer leur misère.
Ben, moi, je m'appelle Lydie. Depuis 5 ans, je fais partie de beaucoup d'associations environnementales au Havre parce qu'on est un port les plus pollués d'Europe. Que si on augmente les escales ici, eh bien, on va augmenter les gaz à effet de serre de manière générale. Mais non, la croisière, elle est 2,5 fois plus polluante que prendre l'avion. Alors qu'on a pris conscience que l'avion était terrible et on n'a pas encore pris conscience que la croisière, c'était quelque chose qui est énergivore et polluant. Si vous faites une croisière de 7 jours, c'est 5 tonnes de carbone. Donc quand on vous dit de passer à 2 tonnes de carbone par Français et par an, là on est vraiment en dehors des clous, mais vraiment en dehors des clous.
Et normalement, le paquebot, il s'amarre où ?
Alors là, vous avez la pointe de Florine, juste ouais. En face. Là, vous avez marqué terminal de croisière. Donc il est visible de la ville.
Et du coup, là, on voit un monsieur devant nous qui est en train de pêcher tranquillement, là où, pas loin de là où le gros paquebot de 300 mètres aurait dû accoster. Bonjour monsieur.
Oui. Pierre. Ah,
Pierre.
Pierre.
Vous êtes en pleine pêche là, c'est...
Oui, j'essaye des lignes. Mais normalement c'est pour pêcher près de la plage.
Ah oui. Bon, et moi je vous embête deux secondes pendant vos essayages de canne à pêche. Parce que je suis venu, j'avais rendez-vous, je suis venu voir le paquebot qui est pas là.
Ah, bon, je sais pas encore.
Vous les voyez, vous les
voyez? Bah oui, des fois ils viennent là, oui, il y en a beaucoup, des gros, vraiment des gros.
Ça ressemble à quoi? Parce que justement, comme il n'est pas là, j'essaie de me faire une idée de ce que je rate.
Comment je peux vous dire? C'est un gros bateau, quoi, c'est énorme.
Et ouais. Ça monte jusqu'à où alors?
Alors il a 18 ponts, donc ils sont plus hauts que nos immeubles.
Oui, c'est énorme, avec plein de fenêtres là, des hublots.
Ouais. Parce que madame, là, je vous présente oui. Lydie.
Bonjour madame.
Et elle fait partie d'un collectif qui s'appelle Stop Croisière.
D'accord.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'ils veulent en faire en venir encore davantage?
C'est infernal, ouais, c'est... Parce que moi, j'avais ma belle-sœur qui habitait Saint-François, c'est là. Ouais. Elle avait un appartement ici, elle a déménagé. Hein.
Mais oui, c'est trop...
Le soir, elle ouvrait sa fenêtre, c'était... Elle sentait la fumée qui rentrait dans l'appartement et tout. On est en train de pêcher, on sent les odeurs de fumée. Hein.
Ils n'éteignent jamais leur moteur.
Toute la journée, ça tourne.
Et donc, ouais. Ça fume?
Ah, ça fume, ouais. Ouais.
Donc on est presque content qu'il ne soit pas là aujourd'hui.
Ben grâce oui. À... oui, ça fait du bien, ouais, c'est vrai que...
On profite du soleil en plus. Bon, merci beaucoup Pierre. Bonne pêche.
Merci, bonne journée.
Bon allez, on continue la balade au port du Havre, à vélo, hein. Avec celles et ceux qui essayent de stopper les croisières.
Un collectif citoyen s'est mobilisé pour dire non au futur terminal croisière prévu pour 2025. Il estime que ce projet encourage une des industries les plus polluantes, les croisières.
Un nouveau port de croisière en projet sur la pointe Floride. Le Havre, ville en mouvement. Encore une grande affiche qui annonce le magnifique bâtiment qui va être là. En 2026, plus sûr et plus hospitalier, le projet de futur port de croisière du Havre contribuera au développement d'un tourisme durable, organisé autour d'une vaste plaine de 4 hectares, rendue à la nature en plus. Ce port de croisière sera doté de 3 terminaux à énergie positive, électrifiés pour accueillir des escales sans fumée. Un coût total du projet, 99 millions d'euros. Je vois pas pourquoi vous râlez, quand je vois ça, ça me donne envie.
On a eu une consultation publique. Par rapport à cette consultation publique, la Haute Autorité environnementale a déconseillé à la ville du Havre d'installer un nouveau terminal de croisière, à augmenter les escales. Et en plus, alors, ce qui est vraiment scandaleux au Havre, c'est qu'avec ces 59 millions d'argent public, on va construire ce terminal de croisière pour nous emmener vers la catastrophe, nous emmener vers l'augmentation des gaz à effet de serre, l'augmentation de la pollution de l'estuaire et vers un air beaucoup plus pollué au Havre.
Et alors Lydie, vous êtes peut-être pas très nombreux avec les stop croisières ici au Havre. Vous prêchez un peu contre vents et marées, mais sur toute la façade atlantique maintenant, il y a des tels collectifs comme le vôtre.
Oui, oui, oui. Moi je dis de la même manière que l'avion vert n'existe pas, la croisière verte n'existe pas.
La croisière verte n'existe pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Picard? Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. Il y a un point que j'aimerais souligner,
ouais.
Il y a un sujet qui n'est jamais abordé par l'industrie de la croisière, C'est son impact sanitaire sur les riverains et le coût supporté par la collectivité pour les bénéfices de quelques-uns.
L'impact sanitaire, c'est-à-dire l'impact de la pollution?
L'impact de la pollution sur les riverains des ports qui sont extrêmement nombreux à souffrir de maladies pulmonaires, de maladies cardiaques, de dégénérescence des neurones. Et c'est un coût que supporte la société, que nous supportons tous pour le bénéfice de quelques armateurs de la croisière.
Parce que les croisiéristes, les professionnels, ils disent que, on va les entendre dans la deuxième partie, ils disent qu'ils font beaucoup d'efforts, justement, pour verdir un peu leur croisière.
Oui, alors on peut en parler de ces efforts. Leurs efforts, ça consiste surtout à faire du greenwashing et à nous vendre les bienfaits des combustibles qu'ils utilisent.
Alors le GNL, par exemple, ils nous disent qu'ils vont passer au GNL.
Parlons-en du GNL, on va lui régler son compte en deux minutes, si vous voulez bien. Alors pourquoi les armateurs nous vantent les mérites du GNL? C'est du gaz naturel liquéfié, c'est du méthane. Et c'est le combustible fossile qui permet de produire le mégawattheure à moindre coût. Mais c'est même moins cher que d'utiliser du fioul lourd. Pourquoi est-ce qu'on vante ce GNL? C'est simplement parce que les armateurs ont trouvé un combustible qui est vraiment peu coûteux. Parce qu'un navire au GNL, c'est un navire qui est beaucoup plus cher à la construction, qui est beaucoup plus complexe qu'un navire classique.
Mais ce n'est pas plus propre que le fioul qu'utilise...
Non, justement. Alors, on commence par parler pollution. Le GNL a été classé comme combustible vert au même titre que le nucléaire. Pourquoi le GNL est considéré comme un combustible vert? C'est qu'il n'émet que des particules qui ne sont pas réglementées et qui ne sont mesurées que très occasionnellement. Ce sont les particules ultra fines, ce sont des particules qui pénètrent directement au cœur de vos poumons, de vos alvéoles pulmonaires, dans le sang et dans les cellules du cerveau. Donc le GNL n'émet quasiment que des particules ultra fines.
Vous parlez des riverains, il y a aussi l'électrification des ports quand même qui compte beaucoup pour que les bateaux puissent couper le moteur justement et qu'on n'utilise pas du fioul quand on est à quai et plutôt de l'électricité.
Tout à fait. Le port de Toulon est électrifié depuis le 1er janvier 2024. Il y a un navire qui s'est branché, 3 jours à quai, un paquebot de Virgin, qui n'avait pas de passagers.
Et vous dites que les autres navires ne sont pas équipés encore pour se brancher,
c'est ça ? Tous les navires qui viennent à Toulon, ils ne sont pas équipés. Ils ont encaissé les subventions de la métropole, de l'État, de je ne sais qui, de l'ADEME, mais leurs installations ne sont toujours pas opérationnelles. Il faut savoir aussi que le prix du kilowatt qui est vendu au navire est environ 2 à 3 fois plus cher que le coût du même kilowatt produit avec les moyens du bord par des groupes électrogènes. Donc les navires ne sont absolument pas incités à se brancher à quai. Et il y a une étude sur le port de Southampton, qui est un grand port de croisière. 70% des navires qui peuvent se brancher ne se branchent pas. Et les autres qui se branchent, c'est quelques heures. Donc, la collection électrique des navires à quai, c'est pour l'instant pas vraiment la meilleure solution. D'autre part, j'en finis une fois pour toutes, s'il faut vraiment que tous les ports de France puissent connecter leurs navires à quai, il faut l'équivalent de 5 centrales nucléaires. C'est le président de EDF PACA qui a fait un article dans Le Marin il y a quelques mois et qui disait que pour décarboner les ports français, il fallait 5 centrales nucléaires supplémentaires. C'est un choix de société qu'il faut faire et personne n'en parle.
Alors, on connaît les soulèvements de la terre. Vous, ce serait donc plutôt les soulèvements de la mer. En quoi consistent vos actions contre ces bateaux de croisière?
Nous, nos actions, on a fait 2 actions qui ont permis de mettre en avant le problème des croisières. On a fait un blocage du port de Marseille en juin 2022 pendant 2h30. On avait ciblé le Wonder of the Seas parce que c'était un des navires qui, pendant le Covid, est resté dans la forme 10 pendant très longtemps. On a refait un autre blocage du port en septembre 2024, il y a quelques mois, et qui permet à chaque fois de remettre en lumière le sujet des pollutions des navires de croisière. Sinon, notre seul moyen d'action, c'est de la communication et c'est surtout de décrypter tout le greenwashing du transport maritime en général et des croisiéristes en particulier.
Guillaume Picard, de Stop Croisière, vous êtes plutôt soutenu par le maire de Marseille, par exemple, le socialiste Benoît Payan. Il a lancé une pétition pour limiter le nombre de bateaux de croisière accostant pendant les pics de pollution. Vous êtes soutenu par certains élus locaux ?
On est soutenu par certains élus locaux. Ou bien ces élus locaux surfent sur la vague Stop Croisière, on peut dire ça aussi.
Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'ils n'agissent pas ou...
Parce que c'est compliqué, notamment à Marseille, le GPMM dépend uniquement du ministère des Transports et le maire de Marseille, il n'a pas son mot à dire sur la gestion du port, ou quasiment pas. Donc pour lui, c'est très compliqué d'avoir une action de limitation des croisières pendant les pics de pollution. Même ça, c'est extrêmement compliqué.
On l'a dit, Guillaume Picard, vous êtes un ancien pilote, un ancien commando.
Non, ne parlez pas de pilote, vous allez irriter mon ami Jean-François Suaz du club croisière de Marseille. J'ai jamais
ancien
été
capitaine.
J'ai été officier de la marine marchande et commandant de car ferry.
Quelle relation vous avez gardée justement avec vos anciens collègues de la marine marchande ?
Alors, il y en a qui me crachent dessus, ça je les comprends, mais j'ai un bon réseau de navigants qui me donnent des informations tout à fait pertinentes sur ce qu'on leur demande de faire, sur l'utilisation qu'on leur demande de faire des laveurs de fumée, par exemple, et sur les conséquences que ça peut avoir sur leur métier et sur l'évolution du métier qui n'est pas forcément celle vers laquelle ils aimeraient que ça aille.
Et quelle relation vous avez gardée avec la mer ?
Avec la mer, j'ai toujours une excellente relation. Moi, depuis tout petit, j'ai habité sur un bateau. J'ai un bateau.
Vous avez grandi sur un bateau, oui, c'est ça.
J'ai grandi sur un bateau. J'ai un bateau de plaisance. Ça a été un grand amour, on peut dire. Et depuis que je m'occupe de la communication des armateurs, je suis un peu dégoûté de ce qui s'y passe.
Vous vous détournez de la mer aujourd'hui ? Vous avez peur qu'on l'abîme trop ?
Ah oui, c'est sûr que la Méditerranée va mourir là très rapidement. Elle va devenir une zone de limitation des émissions en 2025, en mai 2025. Et c'est un camouflet à toute la réflexion qui a été faite avant sur cette future zone de limitation des émissions de soufre, par exemple. Cette future zone va être absolument ridicule. En France, ça va être réduite à 6000, alors que ça devait être tout le bassin méditerranéen. Et donc, les armateurs vont pouvoir continuer à utiliser les laveurs de fumée dès qu'ils seront sortis de la zone des 6000. Et à rejeter les effluents issus du lavage des gaz d'échappement à la mer, comme ils le font actuellement.
Merci beaucoup, Guillaume Picard, du collectif Stop Croisière. Merci d'avoir été notre invité sur France Inter. Le rôle des élus locaux dans ce dossier, on l'a évoqué avec vous. On va en reparler dans un instant. Mais on va faire pour l'instant une petite pause musicale avec Babix et son titre Chevaleresse.
Galope vers sa liesse, galope vers sa liesse, vers sa liesse. Galope, galope, galope sous l'orage, galope sous l'orage, dans la nuit et la fange, sur le chemin des anges, galope, galope, sans fanion, sans armoirie, baissez, baissez les ponts-levis. Combien de kilomètres encore? Combien de kilomètres encore? Combien de kilomètres avant le jour, avant l'aurore? Combien de galops à venir? Combien de galops à tenir? Combien de dragons à oxyre? Combien, combien de forteresses avant l'amour, avant l'ivresse? Chevaleresse, chevaleresse. galope sans armure, galope sans armure, galope le cœur sûr vers l'azur. Combien de fiefs à défendre, combien de siècles à attendre, combien de murs à abattre, combien de flèches pour combattre dans ton carquois de joie. Continue ta course pour que se lèvent les matins. Continue ta course qu'aujourd'hui et demain je me hisse vers ton allure, vers tardiesse. Je me hisse vers ton allure, vers ta tendresse. Chevaleresse,
chevaleresse. Chevaleresse, signé Babix.
France Inter, le 18-20.
Yael Gauz, vous êtes avec nous une semaine en France. On a évoqué à Marseille l'opposition du maire socialiste Benoît Payan. En fait, sur tout le littoral méditerranéen, on constate un ras-le-bol qui va bien au-delà des couleurs politiques. Exemple, à Nice, ville de droite dirigée par Christian Estrosi, aujourd'hui élu Horizon.
Oui, et surprise du chef pour les écologistes niçois qui n'en espéraient pas tant. Le 24 janvier dernier, Christian Estrosi a signé, en tant que président de la métropole Nice-Côte d'Azur, un arrêté qui interdit de faire escale aux bateaux de plus de 900 passagers.
Le soufre émis par les bateaux, c'est en matière de perturbateurs endocriniens ce qui génère le plus de maladies. Et puis, il y a la biodiversité marine. Le plus grand nombre de baleines meurent par collision avec une croisière surdimensionnée.
Voilà le combat de Christian Estrosi contre le tourisme subi sur France 5 le 22 janvier dernier. Toujours bienvenue en revanche, les navires de moins de 900 passagers qui pourront bientôt se brancher sur des bandes électriques plutôt que de laisser tourner leur moteur. Oui. Sauf, Amélie, que cette décision de la métropole ne plaît pas à tous les élus. À Villefranche-sur-Mer, la ville voisine juste à côté de Nice, le maire Christophe Trojani s'estime mis devant le fait accompli.
Moi je regrette cet épisode de communication un peu trumpienne. Je dirais. Cet arrêté n'a pas lieu d'être. Il serait de bon ton de le retirer.
Christophe Trojani sur Ici Azur le 25 janvier. Parce que la décision écologique bouscule les intérêts économiques des commerçants de Villefranche. Oui. 10 à 15 millions d'euros de retombées par an sur la métropole, pour la métropole. Alors Christian Estrosi démine et promet d'être attentif.
Le chiffre d'affaires des commerçants à Villefranche a augmenté de 223%.
Mais demain, sans bateau de croisière.
Si après analyse de leur compte, ils avaient le moindre déficit que ce soit. Nous sommes prêts avec la métropole à étudier une forme d'indemnisation.
Voilà, Christian Estrosi sur Ici Azur le 4 février dernier, le maire de Nice qui s'attend à essuyer des recours devant le tribunal administratif.
Et vous disiez sujet transpartisan, à Bordeaux aussi le maire a pris les choses en main.
Et on peut même dire que c'est lui, le maire écologiste Pierre Urmic, qui a inspiré son collègue Horizon de Nice quand le 6 juin dernier, l'élu bordelais fait cette annonce, l'embarcadère va déménager.
À aval du pont Chaban-Delmas, un endroit qui permettra notamment le branchement de ces navires à l'électricité, évitant ainsi qu'ils utilisent leurs moteurs polluants pendant qu'ils sont à quai. Ce serait une grande avancée pour limiter leur impact environnemental.
Faire en sorte que la vue depuis les quais du port de la Lune, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ne soit pas gâchée. Et comme à Nice, levée de bouclier des commerçants. Lors d'une escale à Bordeaux, un croisiériste dépense jusqu'à 200 euros par jour. C'est deux fois plus qu'au Havre ou La Rochelle, quatre fois plus qu'à Marseille, parce qu'il y a aussi des grands crus, des grands vins dans le panier des croisiéristes.
Ah, effectivement. Et vous ne nous avez pas encore parlé de Marseille.
Un cas d'école.
Je pense à des croisiéristes qui, eux, s'essuient les pieds finalement sur les Marseillaises et sur les Marseillais. Les jours de pic d'ozone, ils ne peuvent pas entrer dans le port. C'est comme ça que je vois les choses.
Le maire socialiste Benoît Payan, la pétition date de l'été 2022, plus de 50 000 signatures en moins de deux mois, mais un maire seul, à part lancer l'alerte, ne peut pas faire grand-chose. C'est toute la différence avec Christian Estrosi qui pilote aussi la métropole avec compétence sur le port, alors qu'à Marseille, le grand port maritime relève de l'État. La ville n'a qu'un siège sur 18 au conseil d'administration, d'où le coup de gueule récent de l'Association des maires de France. Son président et maire de Cannes, David Lisnard, Lisnard a déjà écrit 10 courriers en 7 ans au gouvernement pour revoir les règles, pour donner aux maires le pouvoir d'agir au-delà de la bande côtière des 300 mètres.
Et le gouvernement dans tout ça, il dit quoi ?
Pas grand-chose pour l'instant. La nouvelle ministre du Tourisme, Nathalie Delattre, va rencontrer les acteurs du secteur. Nathalie Delattre qui se fixe un objectif global, faire de la France la première destination du tourisme durable d'ici à 2030. Pour l'instant, on en reste à une charte, la charte croisière de 2019, entre l'État et les compagnies et qui ne concerne que la navigation en Méditerranée.
Merci Yael. Et bonjour Jean-François Suas.
Oui, bonsoir tout le monde.
En direct de Marseille. Merci de répondre à l'invitation de France Inter. Vous êtes le président de Marseille-Provence Croisière. Alors vous êtes pilote maritime. Hein. Cette fois, je ne me trompe pas, vous êtes bien pilote Absolument. Maritime. Et à Marseille, eh bien, c'est l'un des ports les plus fréquentés d'Europe, c'est ça ?
Oui, d'Europe du Sud au moins. Ouais.
Combien de passagers par an ?
2,5 millions.
Et ça suppose un nouveau terminal qui est prévu pour l'an prochain, c'est ça ?
Alors le terminal n'est pas nouveau, alors il y a tellement de réactions que je pourrais faire sur tellement de propos erronés.
On va y revenir point par point.
On va y revenir, mais c'est vrai que le terminal il est ancien, donc la nouveauté c'est qu'il va être équipé par exemple de prises à quai pour les paquebots en fin 2025-2026, donc les paquebots seront connectés à Marseille, les travaux sont quasiment terminés, les premiers tests auront lieu. Mais enfin, nous sommes le premier port de Méditerranée par exemple en 2017, après le départ de M. Picard d'ailleurs, avoir connecté les ferries des compagnies de donc Corsica, Linea et Meridional. Nous connectons aussi des ferries du Maghreb dorénavant, enfin qui sont liées sur les trafics donc de Maghreb. Nous avons une véritable à la fois un savoir-faire, une expérience dans ce qui est le premier port d'Europe du Sud au moins en termes de connexion électrique à quai, puisqu'à ce moment-là effectivement les moteurs ne tournent plus, c'est-à-dire les groupes électrogènes.
Alors faut quand même faire le constat, la croisière exporte à merveille dans le monde. L'année dernière, je crois que c'est plus de 35 millions de passagers, et les Français qui étaient un petit peu en retard ou en retrait, ils sont de plus en plus nombreux à faire des croisières aujourd'hui. Ça marche de mieux en mieux.
Oui, alors effectivement, moi je ne suis pas un commercial de la croisière. Juste, vous donner un ordre d'idée, 35 millions de croisiéristes versus 1,5 milliard de voyageurs dans le monde. Donc une toute petite niche dont on parle beaucoup, effectivement, due à la taille des bateaux, à leur impact, etc. Mais juste, voilà, 400 bateaux de croisière dans le monde, presque 27 000 avions, 60 000 navires. Vous voyez, on est dans un petit monde qui représente très peu de choses en termes d'émissions d'ailleurs, comme de touristes. Hein. Donc, je ne sais pas, à Nice par exemple, dont on vous avait parlé, 150 000 passagers de croisière versus 14 millions de passagers avions, et bientôt d'ailleurs 7 millions de plus, puisque je crois que M. Estrosi a signé pour un nouveau terminal. Donc je crois que c'est important dans ce débat qu'il faut rester froid et donner quelques chiffres très importants, qu'il s'agisse d'environnement, de surtourisme, des baleines d'ailleurs, dont M. Estrosi se préoccupe, et des chartes qui ont été signées, parce que je crois que c'est très important. Elles n'ont pas été signées en 2019, mais elles ont surtout été signées en 2022 avec l'État, et il y en aura bientôt encore une nouvelle. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait le monde d'avant, à quel mon ami, comme vous l'avez, il s'est appelé M. Picard, que je connais très bien, évidemment, parce que nous avons travaillé
Guillaume
ensemble.
Guillaume Picard qui était avec nous,
voilà. Et c'est vrai qu'en 10 ans, lui combat de l'extérieur, moi j'ai combattu à l'intérieur.
Mais vous entendez quand même la colère, l'opposition de tous ces maires, comme nous le disait Yael à l'instant, qu'ils soient écologistes ou de droite, M. Estrosi, M. Lisnard, M. Payan, ils sont pas vos amis, hein, ils vous soutiennent pas. Ils en ont un peu marre de ces bateaux de croisière.
Oui,
vous entendez cette colère-là ?
Oui, j'entends la colère quand elle est publique, puis il y a d'autres versions un peu plus privées. Monsieur Estrosi, je pense qu'il a été très mal informé, puisque tout ce qu'il demande, ça a déjà été fait. Il croyait qu'il y avait des très gros bateaux qui viennent, il n'y en a pas. Il croyait qu'il y avait du low-cost, ce sont que des compagnies américaines qui fréquentent Villefranche, qui n'est pas son port. Il y a un problème, effectivement, institutionnel, c'est-à-dire qu'il a donné des directives. Alors je crois qu'on est plutôt dans un combat politique à Villefranche, à l'intérieur d'une métropole, avec des maires qui s'entendent pas très bien, qu'une réalité. Puisqu'au fur et à mesure de nos rencontres, puisqu'il y a eu beaucoup de rencontres, entre autres avec les moi je ne représente pas la croisière de Nice évidemment, mais je suis tout ça de très près, et effectivement aujourd'hui ils découvrent que ce qu'ils demandent est à peu près fait, et donc je pense qu'on trouvera avec M. Estrosi, une fois qu'il aura les bonnes informations sur ce qui se passe à Villefranche et dans son port, puisqu'en fait ça fait que 2 ans qu'il gère le port, et qu'effectivement ce sont des dossiers nouveaux, complexes, ouais. Effectivement, parce que moi ça fait 40 ans que je m'en occupe, vous voyez, j'ai commencé à naviguer, moi je suis né sur une planche de surf, M. Picard sur un bateau, moi on est à peu près
vous êtes
la
des
même
gens
passion.
De la mer tous. Mais alors revenons justement point par point sur ces inquiétudes environnementales et les solutions que proposent les professionnels du secteur. L'électrification des ports, ça fait partie de vos arguments pour dire que c'est de plus en plus propre. Vous avez entendu Guillaume Picard qui dit les bateaux sont pas équipés en fait pour se brancher? Non.
Alors premièrement, loin de moi de contester effectivement chaque kilo de combustible qui brûle pose un problème et pour la planète et un problème de santé publique, qu'il s'agisse d'une mobylette, d'une voiture ou d'un bateau. La réalité, si vous voulez, ensuite, c'est que sur les bateaux aujourd'hui, il y a le bateau lui-même, il y a surtout le carburant qu'il utilise. Et aujourd'hui, les carburants sont tous en train de changer. Alors j'entends bien les polémiques sur le GNL, mais ça fait quand même presque d'un siècle qu'on l'utilise en France. Dans la chaudière du voisin, il ne posait pas de problème. Maintenant qu'il est sur un bateau, ce serait la fin du monde. Donc soyons évidemment clairs là-dessus, c'est qu'on
élimine... Mais il n'y en a pas beaucoup quand même des bateaux GNL.
50% des bateaux, des passagers qui sont arrivés à Marseille en 2024 sont des passagers qui ont utilisé une propulsion GNL. Plus de 30% de nos escales. On n'est pas sur le... On est dans un monde nouveau, ça c'est 2024. Et d'ici 2030, le chiffre va augmenter et d'ici, évidemment, la fin de l'année, non seulement il y a le GNL en manœuvre, mais il y aura surtout l'électricité à quai. Donc, soyons quand même conscients des chiffres, ça c'est le chiffre.
Mais l'électricité à quai, ce que vous me dites là, c'est quand même une minorité des bateaux. Là, vous me parlez des passagers, mais sur la flotte mondiale, 450 bateaux en circulation, il n'y en a que 19 qui naviguent au GNL aujourd'hui. C'est encore très très peu.
Tout à fait. Alors, c'est beaucoup plus que 19, c'est une soixantaine. Effectivement, toutes les commandes aujourd'hui sont au GNL et il n'y a que, effectivement, 400 bateaux de croisière. Aujourd'hui, 61% des bateaux de croisière sont connectables. Mais il n'y a que les bateaux de croisière qui sont connectables et quelques ferries et quelques conteneurs, en particulier ceux qui fréquentent les États-Unis. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mouvement. Alors, on peut trouver qu'il ne va pas assez vite, qu'il ne va pas assez fort, mais celui qui le conteste n'a pas les bons chiffres. Moi, je vous invite à regarder juste sur Nice le Ascan au Sud, l'association donc qui est en charge de si vous voulez, de la pollution, des calculs, etc. Aujourd'hui, le maritime à Nice, c'est 2%. Et dans le maritime, vous allez avoir toutes sortes de bateaux, dont les bateaux de croisière. Donc, si on veut s'attaquer à la pollution et donc à la santé, il y a 26% pour l'aviation. Par exemple, j'ai regardé ça encore il y a quelques jours, et il y a 52% pour le routier. Et vous savez quel mois de 2024 a été le plus pollué à Nice? C'est le mois de décembre, à cause des cheminées, mais pas celle des bateaux, mais celle des particuliers avec les particules. Nous venons de vivre deux jours, c'est-à-dire hier et avant-hier, nous étions en alerte pollution à Marseille niveau 2. Il n'y avait pas un seul paquebot à clé parce qu'effectivement il y avait une aérologie, c'est-à-dire très peu de vent qui faisait qu'on était pollué. L'été dernier par exemple, nous n'avons quasiment eu aucun jour de pollution, nous n'en avons l'hiver et il n'y avait pas de paquebot l'hiver. Donc vous voyez, c'est quand même une science qui est délicate et qu'il faut manier avec précaution.
Une question sur le modèle économique de ces bateaux. On fait des bateaux de plus en plus gros. Là, on a des bateaux aujourd'hui qui sortent de chantiers navals qui peuvent accueillir plusieurs milliers de passagers. Il y a l'Icon of the Seas, 5700 passagers. On fait des bateaux de plus en plus gros pour faire des économies d'échelle, pour tout accueillir de plus en plus. Mais est-ce que c'est pas ça le problème? Et ces bateaux énormes, c'est eux qui polluent énormément aussi. Est-ce que c'est raisonnable de faire naviguer des bateaux de plus en plus gros comme ça?
Alors, ça, c'est effectivement aux constructeurs et aux armateurs à poser la question. Ce qui est, vous avez tout à fait résumé. C'est-à-dire que si on veut démocratiser un avion, un bateau, ou ne serait-ce qu'une voiture, on met du monde dedans. C'est ça, la réalité. Ça s'appelle la massification. On n'y échappe pas. Ce qui est certain.
Qui s'accompagne du surtourisme en plus à terre, après.
Alors, le surtourisme à terre, on va en parler aussi, madame.
Vous savez, qu'une minute. Il va falloir qu'on conclue assez vite.
Mais le surtourisme, effectivement, Marseille, par exemple, c'est 880 000 habitants, c'est 2 millions de personnes sur la métropole, et nous mettons en moyenne entre 3 et 5 000 personnes dans les rues de Marseille, d'Aix-en-Provence, de Cassis, etc. Donc soyons raisonnables. À Dubrovnik, par exemple,
Le modèle économique des bateaux de croisière en lui-même qui pose problème de toute façon. De plus en plus de passagers dans ces gros bateaux.
Absolument. Si vous voulez préférer des yachts de luxe avec 12 personnes, ça pose vraiment un problème à 50 000 euros la semaine. C'est toute la... D'ailleurs, dans ce mot de surtourisme ou d'ailleurs de low cost de M. Estrosi encore, il y a pour moi un mépris de classe qui est absolu. C'est la réalité aujourd'hui, c'est qu'en termes d'énergie, d'eau, etc., quand vous êtes sur un grand paquebot, vous faites mieux que chez vous. Alors après, c'est toujours trop pour ceux qui le subissent ou c'est toujours... Mais ces gens-là consomment aussi quand ils... à moins de nier leur existence. Et donc, quand ils viennent sur un bateau, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Ils sont au GNL, ils trient leurs déchets, ils utilisent peu d'eau. Et c'est ça la réalité. Après, je reconnais que le CO2 loisir, aujourd'hui, il est questionné sur un camping-car, il est questionné sur votre voiture, il est questionné sur un avion, et il est questionné dans les croisières avec... en plus une surenchère évidemment liée à la taille des bateaux quand ils sont présents dans un port à proximité des populations locales. Loin de moi de nier tous ces problèmes-là. Moi, j'ai essayé pendant 10 ans à l'intérieur de l'association que je préside de résoudre ces problèmes-là par l'intérieur en négociant avec les armateurs. D'autres les prennent de front, comme Monsieur Estrosi. J'espère que vous me rappellerez dans quelques semaines ou quelques mois pour voir l'issue du dossier de Nice, par exemple.
Merci Jean-François Suaz. Merci d'avoir été en direct de Marseille. Je rappelle que vous êtes le président de Marseille Provence Croisière. Avant de retrouver nos amis des radios locales pour l'actualité d'ici et d'ailleurs, on se fait plaisir avec ce tube de Curtis Mayfield. C'est Curtis Mayfield, les années 70, ça n'a pas pris une ride. Eux aussi n'ont pas une ride et des mains d'or à la technique ce soir. Fabrice Desmas, Philippe Duclos et Nicolas Delmas, merci à eux et à Juliette Gou à la réalisation. Frédéric Barrère et Julie Deltey m'ont aidé à préparer cette émission.
France Inter, le 18-20. Amélie Perrier.
Une semaine en France, c'est aussi une semaine avec nos amis d'ici, le réseau des radios locales. Ce soir, nous rendons visite à Dylan Jaffrelot, ici Belfort-Montbéliard, à Romain Bercher, ici Vaucluse, et à Alexandre Frémont, ici Mayenne. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
On débute avec un problème qui occupe autant les pouvoirs publics au niveau national qu'au niveau local, la consommation et le trafic de cocaïne en hausse. C'est le cas chez vous, Dylan, dans le Nord-Franche-Comté.
Oui, chaque semaine, il y a au minimum une personne interpellée avec une vingtaine de grammes de cocaïne dans le pays de Montbéliard. Sur un plan uniquement judiciaire, le nombre de procédures ouvertes pour trafic a augmenté de 60% en un an et le nombre de verbalisations pour consommation de 127%. Alors, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Ils s'expliquent par les contrôles accrus des forces de l'ordre. Mais s'il y a plus de contrôles, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont trouver plus de stupéfiants.
Et pourquoi ces drogues dites plus dures se banalisent dans ce territoire rural, Dylan ?
Il y a deux facteurs principaux. Déjà, la baisse des prix. Aujourd'hui, un gramme de cocaïne se revend environ 60 euros. C'est 20 euros de moins qu'il y a quelques années. Et c'est beaucoup plus simple de s'en procurer avec le développement notamment des Uber Sheets, c'est-à-dire des livraisons à domicile En un SMS, comme on commanderait une pizza, la drogue arrive, peu importe où l'on habite. Il y a aussi des offres promotionnelles, de fidélité, et donc l'époque où un consommateur faisait le tour d'un quartier pour trouver un point de deal est révolue. Puis je pense aussi, c'est un constat plus personnel pour avoir suivi beaucoup d'affaires de stup au tribunal, la paupérisation du territoire amène des jeunes souvent peu ou pas diplômés, un peu en errance, à dealer pour gagner de l'argent plus facilement. Et je pense que du côté des consommateurs, c'est une drogue qui fait moins peur de par sa banalisation, c'est une façon de s'évader du quotidien, de l'ennui qui peut exister dans les campagnes ou petites villes.
Dylan Jaffrelot ici, Belfort, Montbéliard. Dans le Vaucluse, Romain Bercher, vous nous parlez ce soir, vous, d'une halte pour les aidants à Avignon.
Oui, on peut même parler d'une véritable bouffée d'oxygène pour toutes celles et ceux qui consacrent une bonne partie de leur quotidien à soutenir, à aider, à protéger un père, un frère, un cousin ou encore un ami malade ou fragile. C'est l'association Solidairement Vôtre qui vient d'inaugurer une halte des aidants. Je vous emmène ce soir à Avignon, donc dans l'ambiance paisible de l'île de la Barthelasse, au Parc des Libertés. Cette halte des aidants porte bien son nom, puisqu'elle permet le temps d'une demi-journée de profiter de la nature et donc de faire une pause avec par exemple pétanque, peinture ou encore poterie au programme.
Et ce dispositif rencontre un franc succès.
Il y a actuellement 25 aidants et aidés qui ont recours à cette halte. Cela permet surtout aux aidants de se changer les idées, de prendre du temps pour eux. L'association Solidairement Vôtre, à l'origine de ce projet, ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là. Elle vient de lancer un service de covoiturage pour faciliter la vie à ceux qui donnent du temps à leurs proches. L'association envisage également des sorties à la mer ou encore au théâtre. Ça tombe bien puisqu'Avignon et son festival sont un magnifique terrain de jeu.
Merci Romain Bercher. On termine en Mayenne où Alexandre Frémont confirme la présence du loup.
Oui, effectivement, c'est la préfecture de la Mayenne qui l'a confirmé le week-end dernier. Les agents de l'OFB, vous savez, l'Office français de la biodiversité, on en parle beaucoup en ce moment, identifient bien les photos prises de l'animal par un habitant d'Alexin. C'était le 31 janvier dernier. Alexin, c'est allez, un ordre d'idée, 20 km environ de Laval. Et cet habitant, en fait, on l'a retrouvé. Il s'appelle Jordan Lecoq ce jour-là. Mais en fait, il voit l'animal qui part quand il part chercher sa fille à l'école. Il prend sa voiture et il tombe en fait nez à nez avec lui. En plus, ce monsieur, il a des huskies, c'est des chiens de montagne en fait qui ressemble un peu à un loup. Il s'y connaît bien, hein, donc il voit bien que c'est un loup face à lui, il n'y a pas de doute. L'animal est même à 50 mètres de sa voiture. Les deux d'ailleurs se regardent pendant presque 5 minutes. Oui. Voilà, c'est grâce à ces photos-là que l'habitant a pu donner ça aux agents de l'OFB. Et l'OFB a donc bien confirmé que le loup était en Mayenne. Un autre spécimen d'ailleurs a été aperçu à Chaillon. On est aussi pas très loin d'Alexin au nord de Laval. Alors rien d'affolant, hein, le département est quand même en cercle 3, c'est-à-dire que la présence du loup est moins importante. Une cellule départementale d'ailleurs de veille sur le loup était organisée il y a à peine une heure là en préfecture de la Mayenne. Ce qui occupe maintenant les agents de l'OFB, c'est l'analyse d'une crotte pour savoir si c'est bien celle d'un loup et connaître en fait son patrimoine génétique. Mais l'analyse aura lieu que dans 3 mois.
Alexandre Frémont ici Mayenne, Romain Bercher à Avignon et Dylan Jaffrelot ici Belfort, Montbéliard. Grand merci pour ce tour de France ici et ailleurs. Dans un instant, ce sera le journal d'Hélène Fini. Juste après, au téléphone sonne, on se met au vert pour les vacances. Elles débutent ce soir pour la zone B, une bonne moitié nord de la France. Dites-nous si vous aussi, vous avez envie de calme, de campagne, de nature, de vert. C'est au 01 45 24 7000.